Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h42, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député La République En Marche du département de l'Eure, Bruno Quetel.
Bonjour Bruno Quetel.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin parce que nous savons tous que c'est une épreuve de parler. Et parler, raconter ce qui vous est arrivé, vous l'avez fait il y a un mois tout juste. Je voulais d'abord savoir comment allez-vous ?
Écoutez, ça va, j'ai eu un peu l'impression de passer dans une essoreuse, enfin de, voilà, mais ça va parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a l'épouse, les enfants, les proches, et puis ça va aussi parce que c'est quelque part fondamental d'exprimer les choses pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas le faire.
Que s'est-il passé pendant tout ce mois, entre le moment où vous avez dit les choses et aujourd'hui, que s'est-il passé ?
Certaines choses sont remontées. Au titre personnel, des gens m'ont, avec leur regard, fait comprendre qu'ils n'apprécient pas forcément mon expression. D'autres m'ont remercié. C'est quelque part l'humanité aussi que l'on rencontre à travers cela. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de démarches individuelles à l'échelle du domicile, de la permanence parlementaire, de l'Assemblée nationale, des gens connus, des gens non connus, des gens âgés, des gens plus jeunes qui sont venus vers moi pour exprimer les choses, pour me raconter leur histoire.
Il y a combien à peu près ? Combien de personnes sont venues vous voir ?
Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines et j'ai reçu énormément de messages par mail et sur les réseaux sociaux avec des choses très poignantes et d'autres plus surprenantes.
Mais vous disiez qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié votre démarche. Pourquoi ? Parce que
On dit toujours c'est une personne sur 10, mais on oublie toujours les auteurs. Il y en a qui nous écoutent ce matin. Il y en a qui, dans la journée, vont le faire. Ce phénomène, il est à la fois ancré, enkysté dans l'humanité. Je crois sincèrement que c'est une maladie, qu'on ne peut pas faire ça si on est sain d'esprit. Il n'y a aucun curseur de détection dans les comportements. C'est très difficile d'appréhender aussi les enfants dans leur modification de comportement à l'école et autres. Et je crois qu'on assiste surtout aujourd'hui à une libération de la parole, mais il faut que celle-ci se poursuive pour que demain ne soit plus pareil.
Alors Bruno Quetel, c'était donc le 18 janvier, vous étiez à l'Assemblée, vous avez décidé de ne plus vous taire. Et c'est d'abord par un tweet que vous vous êtes exprimé.
Oui, tout à fait. C'était en réaction à une phrase de Jacques Lang que j'ai trouvée insupportable.
Qui disait
qu'il ne pouvait s'indigner toutes les minutes de ce phénomène.
Parce qu'il était interviewé sur le livre de Camille Kouchner.
Il était interviewé sur ce livre, sur une autre radio. Et j'ai trouvé à la fois dans la gestuelle et l'expression quelque chose d'insupportable. Encore une fois, pour celles et ceux qui sont concernés, qui ne peuvent rien dire. Nous étions à l'Assemblée, en commission, et j'ai fait ce tweet.
Vous avez dit quoi dans ce tweet ?
De manière linéaire, que j'étais concerné, que la question n'était pas, non pas de s'indigner toutes les minutes, mais de s'indigner toutes les secondes. Que le silence. Mon message était que le silence n'était plus possible.
C'est parti tout seul, ce message ?
C'est parti tout seul.
C'était pas quelque chose de réfléchi ?
Ça faisait plusieurs jours que ça tournait dans ma tête. Mais c'est parti un peu intuitivement, oui, effectivement.
Et immédiatement après, vous en avez parlé à quelqu'un ? Vous vous êtes dit, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait ?
Dans le quart d'heure qui a suivi.
C'était fait,
j'ai compris la densité ou la dimension de ma démarche. Moins d'une demi-heure après, j'ai reçu un message important.
C'est-à-dire ?
Le président de la République, qui m'a fait un message de beaucoup de gentillesse. Et je me suis dit, voilà, si lui a vu ça et il m'écrit ça, c'est que c'est pas anodin. Et puis après, ben, il faut assumer, tout simplement.
Et vous
c'est
en
le sens de ma présence aussi.
Tout à fait. Vous en aviez parlé à votre épouse, à vos enfants, à votre famille. Tout le monde était au courant chez vous ?
Mon épouse et les enfants étaient au courant. Quelques proches étaient au courant, moins de 10 personnes. Avec lesquelles j'avais réussi à partager cela. Parce que vous ne le faites pas spontanément et naturellement. Il faut être en confiance. Et depuis un mois, ma démarche, elle est celle avant tout du parlementaire qui veut aussi exprimer qu'on peut faire une vie, qu'on peut construire une vie et qu'on doit de toute façon vivre. Sauf à faire des choix irrémédiables, mais il faut vivre.
Vous avez été violée, vous aviez 11 ans, c'était en Corse, dans la maison des vacances. C'était un ami de la famille. Vos parents, vous leur en avez parlé ?
Oui, le jour même, mais c'était il y a plus de 40 ans. Et on était en Corse, avec tout ce que cela comporte, il y a plus de 40 ans. Même. Et la cloche a été mise sur cette histoire.
Mais c'est-à-dire, quand vous leur en avez parlé, ils vous ont dit « Tais-toi, on ne parle pas de ces choses-là » Ils ont mis en doute vos paroles ?
Du tout, jamais. Jamais, mais à l'époque, il n'y avait pas de conscience de tout cela. Et puis, je crois que ça ramène aussi chacun à ses propres fragilités. Et il y a eu une réaction divergente chez mes parents qui fait qu'il n'y a pas été donné suite.
Vos parents, l'un voulait vous défendre et l'autre voulait...
Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Je veux juste souligner, encore une fois, que c'était il y a plusieurs décennies qu'on était dans ce lieu un peu mythique, qui est celui du village où vous avez cette transhumance des gens qui y reviennent l'été. Il fallait peut-être aussi ne pas casser cette forme d'harmonie estivale. Mais tout cela, c'est du domaine du passé, pour le coup, du personnel. Et ce qu'il faut maintenant, c'est regarder devant comment mon expression peut être utile pour les victimes et puis aussi participer à la nécessaire construction d'un après pour faire que cela ne soit plus possible, encore une fois.
Alors justement, il y a plusieurs textes qui sont examinés à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est une proposition de loi socialiste. Il y a aussi le Sénat qui s'en est saisi et le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui souhaite faire évoluer la loi. On ne va pas entrer dans tous les détails et tant mieux, j'allais dire, si tout le monde travaille.
Bien sûr.
Mais pour vous, qu'est-ce qui paraît urgent d'inscrire dans la loi ?
Il y a plusieurs choses. Il y a la question il faut préciser la nature du crime dont il s'agit. C'est pas un crime parmi d'autres.
C'est-à-dire ?
C'est lié. La question de l'inceste, elle doit être précisée. Elle doit être renforcée. Il y a la question de la prescription. Je l'ai dit plusieurs fois, on peut pas reprocher à quelqu'un de s'être, entre guillemets, réveillé trop tard. Donc il faut que toute victime puisse avoir la possibilité d'exprimer les choses et qu'un mécanisme s'enclenche, quelle que soit l'issue.
C'est-à-dire, au-delà de 30 ans après les faits, on doit prendre en compte la parole des victimes.
Les paroles doivent être entendues, les victimes doivent pouvoir les exprimer en toute sérénité. Et la question n'est pas tant celle de la condamnation de l'auteur éventuel ou présumé, mais celle aussi de la capacité à exprimer ce traumatisme dont il s'agit, cette marque indélébile dans sa chair, dans sa vie, dans son expression. Et surtout, ce qu'il faut, je crois sincèrement, c'est que, encore une fois, les auteurs comprennent que l'impunité est terminée. Parce que c'est la question de l'impunité qu'il faut combattre. Trop d'hommes, puisqu'il s'agit essentiellement d'hommes, ont considéré que ça faisait partie du naturel des choses. Trop d'épouses aussi ont laissé leur homme faire ça. À leur petite sœur, par exemple. À leur fille, par exemple. Et tout cela doit être combattu maintenant en termes à la fois sociétaux, juridiques, et c'est une forme d'humanité qu'il faut appréhender pour que justement celles et ceux qui s'y risqueraient comprennent que le risque judiciaire est là maintenant.
Il faut donc punir tout acte sexuel, qu'il y ait pénétration ou non-pénétration. Ça aussi, maintenant, ça va être puni.
Ça va être le cas, effectivement, et quelle que soit la nature ou la dimension de ce qui peut vous être fait, vous êtes marqué au fer rouge. Ce qui est fascinant depuis un mois, vous me demandiez comment j'allais tout à l'heure, nombre de personnes qui sont venues vers moi, avant de connaître leur histoire et qu'ils connaissent la mienne, on avait dans le regard un échange possible. Il y a une forme de point commun ou de lien qui est celui des victimes.
Quand on suit un peu les discussions au Parlement, on voit bien aussi qu'il y a des parlementaires qui se disent « attention aux erreurs judiciaires ».
Ça vaut dans tous les domaines. Ça vaut dans tous les domaines. Et bien évidemment, attention à ce qu'une trop forte libération de la personne n'entraîne pas des règlements de compte sur la base de mensonges. Mais là, la justice fera son travail. Le principe du contradictoire sera complètement opérant.
En dehors de la loi, Bruno Ketel, comment en parler ? On voit bien dans le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui accuse son beau-père Olivier Duhamel de viol sur son frère jumeau, que beaucoup de monde savait. Audrey Pulvar, dont le père est décédé maintenant, est accusée d'avoir abusé de ses cousines lorsqu'elle était enfant. Elle dit « Moi, depuis 45 ans, je sais ce qu'il s'est passé des choses confusément. Non, il ne m'est pas venu à l'idée de le dénoncer. Je ne savais pas que je savais. » Souvent, les entourages sont au courant. Ils ne franchissent pas le Rubicon, ils ne parlent pas. Comment on fait ? Parce que ça, c'est pas du domaine de la loi,
moi,
ça.
Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui, à 2 ans, m'a dit « J'avais oublié ». Voilà, on est dans l'oubli. Parce que nous-mêmes, on avance, on vit, on construit notre propre existence, notre propre famille. Donc les gens se disent, ils vont bien, il va bien. Et l'oubli s'installe dans les esprits, c'est ce qu'il faut justement ne plus permettre.
Et il y a quelques semaines, Brigitte Macron était l'invitée d'RTL. Elle avait réagi, elle aussi, au livre de Camille Kouchner, de Me Too, inceste, qui avait déferlé. Et elle disait, c'est l'école qui peut aussi jouer un grand rôle. Comment l'école peut s'en saisir ?
Il faut des capteurs. Le président de la République a proposé qu'il y ait 2 rendez-vous, deux examens des enfants avec des psychologues au cours de la scolarité. Je crois que c'est très important. Il faut aussi que les enseignants soient peut-être formés à essayer de détecter les choses. Et il faut aussi qu'il y ait peut-être plus de liens entre l'école et les familles pour justement permettre la résurgence de ces actes, le cas échéant.
Mais vous, à l'école, vous n'aviez jamais pu en parler ?
J'ai des souvenirs d'en avoir parlé avec des camarades de classe. Mais je n'ai jamais pu l'exprimer pleinement. C'était compliqué. Ma mère était institutrice dans l'école où j'allais. Voilà. Donc c'était pas possible.
Et quelle adolescence vous avez eue ? Est-ce qu'il y a des profs avec lesquels vous avez pu avoir des échanges ?
J'ai pas pu avoir des échanges, mais plusieurs fois des profs m'ont interrogé sur la nature de mon comportement et de la fragilité qui était la mienne dans certains moments de la vie. Et pour eux, c'était une surprise de me voir parfois craquer devant des événements anodins.
Vous auriez aimé pouvoir en parler, vous, justement, à ce moment-là, à l'école ?
Rétrospectivement, oui.
Ouais.
Rétrospectivement, j'aurais aimé pouvoir exprimer les choses plus tôt, parce que ma grande question, c'est de savoir si je suis la seule victime de l'intéressé.
Pourquoi ? Parce que, quel doute avez-vous ?
Parce que ce silence qui a été mis sur la table, est-ce qu'il n'a pas permis à cette personne de recommencer ? Ça, je n'aurai jamais la réponse. Et c'est là ma grande question, et c'est ce qui m'amène à avoir la certitude qu'il faut exprimer les choses.
Jamais vous n'avez parlé à un psychologue au cours de votre adolescence ou de votre vie de jeune adulte ?
Non. Non, non, ça n'a jamais même été évoqué. Mais c'est des choses qui peuvent se rattraper.
Mais ça veut dire qu'à l'école, il faut qu'il y ait une présence de psy ?
Je pense que c'est important. Je pense qu'il faut qu'il y ait des structures, des cellules d'échange aussi, parents, enfants, enseignants et psychologues, et qu'il faut que la médecine scolaire retrouve peut-être une place qu'elle a sans doute perdue dans ce cadre-là.
Bruno Ketel, on peut pardonner ?
Non. Non. Non, parce que c'est votre vie qui est bouleversée. Vous n'avez pas la vie que vous auriez dû avoir. J'ai cette certitude de ne pas avoir eu la vie qui aurait dû être la mienne.
Vous avez fait quelque chose de dingue. Vous avez racheté la maison dans laquelle vous avez subi ces violences, en Corse. Pourquoi ?
Ah ça, je me suis jamais posé la question du pourquoi. J'ai su que cette maison était à vendre et pour moi, elle ne pouvait pas m'échapper. Il fallait que je l'achète pour effacer, sans doute, le lieu où ça s'est produit. Et il fallait aussi que je puisse y pénétrer en toute liberté, en toute quiétude. Parce qu'il faut réparer. Il faut se réparer, il faut tout réparer.
Réapproprier.
Se réapproprier, oui, voilà, exactement.
Je vous remercie infiniment, Bruno Ketel, d'être venu parler ici aux auditeurs d'RTL et à nous-mêmes. Merci pour votre grand courage et bon courage pour la suite.
Merci à vous.
On sera avec vous.
Merci.
Il faut préciser la nature du crime et que les auteurs soient convaincus de la fin de l'impunité, vient de nous dire le député Bruno Ketel, qui a donc décidé de rendre public l'inceste dont il a été victime à l'âge de 11 ans. Merci.